on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue à vous, les voisins, les voisines. Entraînement, endurance, transcendance, il faut bien le dire, transpiration, vous l'avez compris. Chaussez vos baskets, enfilez un short ou un jogging. Aujourd'hui, nous parlons sport, l'essentiel étant d'être très à l'aise et nous nous intéressons tout particulièrement à la façon dont le sport peut faire bouger nos sociétés, les lignes, ouvrir des portes, des esprits, faire sauter des barrières, des comportements ancrés, développer des territoires, des économies et innover en matière de business et de modèles existants. On doit à Nelson Mandela cette réflexion sur la grandeur du sport. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les gens de manière quasi unique. Il parle aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières. Et justement, les gouvernements à travers le monde ont conscience de ce potentiel d'expansion lié au sport et cherchent pour beaucoup à accroître les activités sportives dans leur pays. Hier encore, le ministre des Sports de la Guinée, qui a accepté d'accueillir la CAN 2025, déplorait le manque d'infrastructures nécessaires pour faire de la Guinée l'une des grandes nations du sport. Sur un continent où 70% de la population a moins de 30 ans, le sport est un enjeu de taille qui s'élève au-delà du divertissement et de la stricte performance sportive.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Nous accueillons aujourd'hui pour cette belle discussion Laetitia Apchi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Vous êtes conseillère sport et développement de l'AFD, au sein de l'AFD, l'Agence française de développement. À vos côtés, nous retrouvons Jimmy Adjovi-Boko. Vous êtes ancien footballeur, vous êtes cofondateur de l'association Diambars, une école de football au Sénégal. C'est bien ça.
C'est ça.
Et face à vous, également un ancien sportif, Ahmed Taoufik. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour RFI.
Alors vous êtes ancien basketteur, social entrepreneur,
exact.
Fondateur de l'association Les Enfants du Bénin Debout qui œuvre pour la promotion du sport comme outil de développement.
Affirmatif.
Affirmatif. Et nous accueillerons en ligne depuis Chicago dans quelques minutes Larry Choninou, un étudiant de 21 ans qui est en deuxième année d'architecture, originaire de Cotonou et qui a vu sa vie rebondir dans des directions parfois inattendues, justement grâce au sport. Avec vous, nos auditeurs, nos voisins, nos voisines, nous répondrons à beaucoup de questions. Comment le sport peut-il développer l'économie d'un territoire? Plus largement, le sport peut-il jouer un rôle dans le développement durable? Comment le sport peut-il abolir certains préjugés? A priori, n'accorde-t-on pas trop de pouvoir au sport aussi? Ne sont-ils pas finalement un peu fantasmés? On en parlera. Accorde-t-on autant de crédit aux femmes qu'aux hommes dans le sport? Qui sont les modèles féminins? Et beaucoup d'autres questions. Première question pour vous, nos invités. Quel est selon vous le plus grand pouvoir, pour reprendre les mots de Nelson Mandela, le plus grand pouvoir que l'on peut prêter au sport? Jimmy Adjovi-Boko.
J'en donnerai deux.
Quel est le?
Bon, alors,
non, on le, y va pour alors, deux.
Pour,
on a
alors,
hâte d'entendre.
Le pouvoir de rapprocher, d'unir, le partage. Et le deuxième, c'est la santé, je dirais.
Ah oui, les bienfaits sur, voilà. Sur la santé.
Je ne pense pas que je peux rajouter à ce que Jimmy a dit. Je pense qu'en un mot ou un mot et demi, c'est exactement ça. Santé d'abord, parce que dès qu'on est en santé, on peut évoluer sur plusieurs choses. Et le pouvoir d'unir, on voit un peu l'impact des Jeux Olympiques, des Cannes et toutes ces choses-là. Donc, on peut être derrière un pays grâce au sport.
N'attend-on pas trop du sport sur ses capacités justement à rassembler, à apaiser, à mettre en sommeil ou au loin les tensions, les a priori? N'attend-on pas trop du sport?
Non.
Laetitia Apchi.
On peut faire beaucoup plus.
On peut même aller plus loin.
Justement, on n'a peut-être pas donné suffisamment d'attention au sport sur sa possibilité de faire. C'est sous-utilisé.
C'est l'inverse, oui, c'est sous-estimé et pas surestimé.
Et il est temps de faire des investigations sur ses impacts et voir comment mieux utiliser le sport, beaucoup plus pour la paix dans le monde, pour l'égalité homme-femme. Je pense que là, c'est essentiel. Je l'ajouterai aux deux points que Jimmy a indiqués. Je pense que c'est vraiment essentiel d'utiliser le sport pour l'émancipation des femmes.
Les voisins et les voisines, prenez part à cette discussion. Quelle place le sport tient dans votre vie, votre quartier, votre pays? Voyez-vous à travers cette activité une opportunité de faire évoluer les mentalités? On est en train d'en parler. Voyez-vous un tremplin pour l'économie ou est-ce un leurre? Qu'est-ce que le sport a pu changer en vous, chez vous? Quelle équipe soutenez-vous aussi et quels sont vos modèles sportifs? Nous en parlons, le 33 1 84 22 71 71. À vous, nos invités, j'ai envie de vous demander des exemples concrets avant de nous parler de vos activités respectives liées au sport. Je voudrais que chacun d'entre vous partage avec nous un exemple concret auquel il a pu assister ou participer qui illustre la force du sport au sein d'une société, la force du sport dont vous venez de parler à l'instant, qui montre à quel point le sport peut faire bouger les lignes ou être un acteur à part entière du développement.
Moi, je vous dirais, Jimmy Adjovi-Boko. J'étais en Afrique du Sud en 1995. Donc à la fin de l'apartheid, pendant la Coupe du Monde de rugby. Et on a vu, parce que vous parliez de Nelson Mandela, on a vu comment Nelson Mandela a réussi à unifier son pays derrière la Coupe du Monde, alors que le rugby représente en Afrique du Sud le sport blanc, ou représentait le sport blanc. Il a réussi à amener tout le peuple sud-africain à supporter cette équipe de rugby qui était plutôt à 99% blanche.
Et pas pour nécessairement moi, c'est ça. Acquise.
Voilà, et derrière, ça a été l'Afrique du Sud qui gagne la Coupe du Monde, et ça a été, je pense, le début de cette nation arc-en-ciel. Voilà.
Laetitia Apchi.
Alors moi, je voudrais mettre en avant les actions des sportifs qui par l'héritage, veulent, et le désir de rendre dans des pays de là où ils viennent, de mener des actions de développement très proches des populations. Déjà, autour de moi, j'ai deux personnes qui font ça depuis très longtemps et on voit des impacts très essentiels pour les jeunes de ces pays-là. Et puis aussi des actions menées par nos grands partenaires de l'AFD aujourd'hui, la NBA et la FIFA.
On va la balle, et on va en parler. Mais effectivement, vous mettez en avant ces sportifs qui font carrière et qui sont parfois internationaux, mais qui rentrent aussi au pays et qui mènent des actions chez eux grâce au sport pour aider la population. Ahmed Taoufik, qu'avez-vous vu, vécu ou entendu qui illustre ces propos?
Alors, il y a tellement d'exemples. Juste là, ce qui me vient en tête, c'était pendant la grosse crise politique en Côte d'Ivoire. Je suis plus sûr si c'était la CAN ou la Coupe du Monde. C'était la CAN, c'est-à-dire le pays était complètement divisé. Donc c'était quasiment un état de guerre. Mais juste pour supporter les éléphants pendant la CAN, les deux parties qui faisaient la guerre ont fait une sorte de cessez-le-feu juste pour la période de la CAN. C'est pour vous montrer l'impact que le sport peut avoir dans les pays.
Et ne peut-on pas faire perdurer? Comment faire perdurer alors ces effets si positifs une fois les crampons raccrochés et la compétition terminée?
Après, ce qu'il faut voir, c'est que les conflits politiques, ça reste un conflit politique. Donc, il y a plein de problématiques. Voilà, il y a plein de problématiques qu'il faudra essayer de résoudre. Donc, le sport peut faire ça, mais ça, c'est encore un autre débat. C'est le sport pour diplomatie ou bien sport comme vecteur de paix. C'est des choses qui se font souvent et ça aurait pu être la même chose. Mais dans ce cadre-là, en fait, l'idée, c'est déjà de voir que c'était la guerre. Tout le monde se dit, bon, on va faire un temps mort. Notre équipe joue une Coupe d'Afrique, on va les soutenir et après on pourra reprendre nos problèmes plus tard. Donc c'est déjà pas mal.
C'est très puissant.
C'est un peu l'adage africain de on lave le linge sale en famille. C'est un peu ça.
C'est très très puissant, effectivement. Laetitia Apchi, je le rappelle, vous êtes conseillère sport et développement de l'AFD, l'Agence française de développement. Pouvez-vous nous présenter l'AFD et ses missions premières?
Voilà. Les missions premières, c'est d'être une plateforme de l'aide publique au développement et notamment de faire ces rencontres d'acteurs et de multiplier les impacts de l'aide publique au développement. Et dans le cadre de cette stratégie sport et développement, c'est d'arriver à mobiliser des fonds et avoir des effets de levier sur toutes ces actions qu'on vient de parler des sportifs et aussi avoir des plus grands projets, des constructions d'infrastructures. Vous avez nommé l'importance des infrastructures dans le domaine de sport. On a plein de champs d'intervention, mais j'ai surtout mentionner, enfin, retiens ce que vous venez de dire, c'est que quel peut être le rôle d'un bailleur de fonds comme l'Agence française de développement derrière ça? Ben justement, c'est de trouver les moyens de prolonger ces actions, parfois qui sont ponctuelles, des sportifs, en des grands projets et avoir des effets de levier.
Votre rôle au sein de l'AFD, en quoi consiste-t-il?
C'est transformer ces stratégies, ces politiques, des annonces qui ont été faites dans des discours comme le discours de notre président Macron à Ouagadougou en novembre 2017, en action. Trouver les leviers d'action, utiliser les moyens que nous donne le gouvernement français pour avoir des actions concrètes sur le terrain et aider les sportifs, aider les gouvernements dans leur politique sportive, développer la filière économique du sport, vous l'avez mentionné aussi.
Devait avoir lieu après-demain, le 13, à Dakar, le lancement de la saison inaugurale de la Ligue africaine NBA. La balle qui a été annulée ou reportée, vous allez peut-être nous en dire plus là-dessus, à cause du coronavirus. L'AFD est partenaire de la Basketball Africa League. Comment s'est noué ce partenariat et avec quelles ambitions?
C'était rassembler des grands acteurs. Voilà. C'est se dire, la NBA a une volonté de se développer en Afrique. À travers le sport, il y a des messages forts. Proposons à la NBA de porter ces messages forts développementaux avec nous. Ne travaillons pas de manière isolée, chacun de son côté, mais travaillons ensemble, pas d'un côté l'aide publique au développement, d'autre des grands acteurs avec des enjeux économiques. Travaillons ensemble. Voilà, ça c'était la première proposition pour être plus fort et atteindre mieux nos cibles, surtout avec des grandes marques comme ça qui attirent la jeunesse. Rien que ça c'est très important.
Ahmed Taoufik, vous, l'ancien basketteur, quel regard portez-vous sur la balle?
La balle, c'est très intéressant dans le sens où c'est la première fois que la NBA a ce genre d'événement hors Amérique du Nord. Et pourtant, si on voit économiquement, l'Afrique actuellement n'est pas l'une des puissances. Ils ne sont pas venus en Europe, ils ne sont pas allés en Asie, qui est un gros marché pour eux, mais ils décident d'aller en Afrique. Ça montre déjà le potentiel sportif que le continent a. Vous venez de dire que 70% de la population a moins de 30 ans. Et donc, ça montre que la NBA, en tant que visionnaire, s'associe à l'Agence française de développement pour vraiment mettre en place cette stratégie-là. Je pense que ça devait être... Moi, je suis, en tant qu'Africain et en tant que fan de NBA de basket, je suis un peu déçu de que ce soit... repousser. Que la balle soit repoussée, parce que déjà je pense que ça devait être un gros levier économique, gros levier culturel aussi. Il y avait plein de choses qui étaient mises en place pour ça, donc on a un peu, il y a un pincement au cœur en tant que basketteur et africain.
Mais disons-nous rendez-vous très prochainement pour lancer cette fameuse saison inaugurale.
Complètement. Moi, je suis en fait content parce que théoriquement, je devais pas être à Dakar le 13. Du coup, je suis quelque part un peu content. Donc, je vais pas rater l'inauguration en fait.
Les objectifs de la balle sont nombreux. Hein. Laetitia Abchi, éducation, santé, égalité des sexes, vous en avez parlé. Citoyenneté, environnement, économie. Peut-être pourrions-nous en développer quelques-uns. Comment la mise en place de la balle peut venir soutenir les besoins sanitaires et de santé, par exemple?
Par les messages qui vont être portés. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a des grosses ambitions avec sa Basket African League, qu'on appelle l'edutainment, d'utiliser des nouveaux moyens, des réseaux sociaux pour avoir des messages forts à travers les nombreux followers qu'a la NBA. On pense que c'est un super vecteur pour porter des messages sur les objectifs du développement durable. Qui sont de 17, mais qui touchent tous les secteurs, la santé, enfin tous les secteurs que vous avez mentionnés. Et l'impact sera énorme. Voilà, donc utiliser leur force de médiatique pour communiquer sur le développement.
Concernant l'égalité des sexes, vous dites du basket qu'il est en avance sur le genre. Ça, c'est votre... Je reprends vos mots là en disant ça, qu'il donne une place aux femmes. Pensez-vous que d'autres sports ne le font pas assez? Et comment le sport peut-il contribuer à réduire ces inégalités de considération, voire de rémunération entre les hommes et les femmes? Rêvons grand.
Voilà. Bon, pourquoi on dit le basket est en avance? C'est la pratique, en fait, qui a souvent plus de pratiques paritaires ou beaucoup de filles qui jouent au basket. Le champ est ouvert, hein. Il y a vraiment énormément à faire, parce que à la fois le pouvoir du sport pour l'émancipation des femmes est énorme, mais c'est aussi, disons-le, un secteur en retard sur la pratique sportive des femmes. Il y a des grands barrages, des stéréotypes. Je pense surtout en Afrique, ça reste très difficile pour une femme de pratiquer une activité sportive. Donc il faut d'abord agir sur les stéréotypes.
C'est une question que je vous pose à tous les trois. N'y a-t-il pas encore aujourd'hui des sports sanctuarisés par les hommes et très difficiles à intégrer pour les femmes?
Il y en a de moins en moins.
Jimmy Adjovi.
Oui, je pense que là-dessus, il y a un vrai travail qui est fait à tous les niveaux, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a un travail qui est fait par les fédérations. Je vais prendre l'exemple que je connais bien, celui du football.
Celui du foot.
On a vu pendant la Coupe du Monde 2019 en France le changement sur la perception de ce qu'est le football féminin. Donc là, aujourd'hui, les choses sont vraiment en train d'évoluer. Et en évoluant, ça permet de faire évoluer notre société et le regard qu'on a sur les femmes. Je reviens de New York où on a lancé une campagne, la campagne Carton Rouge contre les violences faites aux femmes, qui s'appuie sur le football, enfin le sport, pour mettre un carton rouge à toute forme de violence contre les
faites aux femmes.
Faites aux femmes. Et cette campagne a cartonné, je dirais, pour employer le terme carton rouge. Ça a été assez extraordinaire. On a plusieurs agences des Nations Unies qui nous suivent. Le lancement officieux s'est fait pendant la Coupe du Monde 2019 en France. Et on va aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où on a l'intention de remettre, que le secrétaire général des Nations Unies remette au président de la fédération de la FIFA le résultat de... On attend 1 million de personnes qui signeront ce manifeste contre les violences faites aux femmes.
Et au-delà de ces signatures et que vous pourrez recueillir sur ce manifeste, est-ce que d'ores et déjà, avec ce dont vous venez de nous parler, le carton rouge, vous avez pu voir des effets de cette communication? Voir les effets de cette communication?
Pas encore, parce qu'on vient de le lancer, mais l'idée, c'est pas seulement de rester au manifeste. L'idée, c'est vraiment derrière, de faire prendre conscience aux gens de l'importance de ce combat, mais derrière, surtout, d'essayer de réunir tous les projets qui sont, ou toutes les actions qui sont menées justement pour combattre dans ce sens, et de les mettre en avant. Parce que là aussi, je pense qu'il y a des choses qui sont faites un peu partout, dont on n'est pas au courant, et qui serait intéressant de mettre en avant et de dupliquer. Donc ça va être aussi le rôle de la RDN, qui est la structure qui mène ce projet, qui est une structure des diasporas africaines qui nous permettra justement de porter cette campagne et d'essayer d'atteindre ce million de signatures.
Et juste un dernier point dont je voudrais parler avec vous, Laetitia Apchi, sur la balle, et un point important qui a été soulevé par Rémi Rioux, qui est le directeur de l'AFD, c'est que la balle est un projet panafricain qui est porté par les Africains. Et là aussi, il y a quelque chose qui se joue, c'est entre les mains des Africains en Afrique.
Exactement, c'est vrai, même si le principal actionnaire est aujourd'hui la NBA, c'est un projet qui émerge d'Afrique et le président, enfin, le directeur de cette Basket African League était le vice-président de la NBA. Il est sénégalais, il vient de Kaolack, il porte ce projet en tant qu'Africain et avec toute son âme en fait, et ils veulent faire vraiment émerger une belle compétition avec 12 pays concernés.
Dans six pays, six villes
phares, et ce sera forcément un grand événement qui aura un impact fort auprès de la jeunesse africaine avec des messages forts.
Eh bien, puisqu'on parle de jeunesse africaine, nous accueillons Larry Choninou qui se trouve à Chicago. Bonjour et bienvenue à vous, Larry Choninou, pardon.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Vous êtes béninois.
Oui, je suis béninois.
Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en architecture, en deuxième année très exactement. Et le sport a joué et joue un rôle prépondérant dans votre vie, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et votre histoire pas ordinaire avec le sport?
Alors, je suis né au Bénin, à Cotonou, et je suis resté là-bas jusqu'à mes 16 ans. Et juste avant de partir au fait, j'ai fait du basket, beaucoup de basket. Et avant de partir de Cotonou, au fait, j'ai fait un camp avec l'association Enfants du Bénin Debout. Et après ça, je suis allé à Paris chez mon père. J'ai passé 4 ans. Et maintenant, j'habite à Chicago depuis 2 années. Et je suis étudiant en architecture ici. Et je travaille continuellement avec Ahmed, qui représente l'association et c'est
Ahmed,
ma façon
Ahmed
en fait,
Taoufik,
de
qui est avec nous aujourd'hui.
Oui, Ahmed Taoufik. Ahmed Taoufik et travailler avec lui, avec le sport, avec ce qu'il fait, c'est ma façon de rendre constamment ce qui m'a donné au fait lors de ce camp, toutes les opportunités que j'ai eues.
Mais que vous a-t-il donné justement? De quoi parlez-vous? De quoi s'agit-il?
J'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses avec le sport. Le sport m'a inculqué trois grandes valeurs: planifier, être discipliné et rendre. Planifier parce que chaque projet que je fais aujourd'hui, je le prends comme une performance au fait à exécuter. Je me dis c'est comme un basketteur pro au fait. Si je dois tourner à 20 points, 20 rebonds par match, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes que je dois faire? Du coup, dans mon travail, je me dis, bon, si je dois atteindre cette performance-là dans 2 mois, si je dois finir ce projet en 2 mois, quelles sont les différentes étapes qui vont me permettre d'y aller? Et la discipline, parce que ça me permet de rester concentré sur ce que je fais, parce que quand on joue un match, on ne doit pas être distrait. Et rendre en dernière étape, parce que ça m'a permis, au fait, de comprendre que ce n'est pas l'individu qui compte, mais c'est l'équipe. Du coup, à chaque fois, au fait, quand on fait quelque chose, on se demande, mais comment rendre à la communauté, comment rendre à ceux qu'on représente. Et c'est ça qu'Enfants du Bénin fait continuellement. Pour être plus précis avec Ahmed, au fait, je fais du design pour l'organisation.
Voilà. Et avez-vous trouvé réponse à vos questions? Comment rendre? Comment rendez-vous, finalement?
Comment je rends, finalement? Moi, je me suis dit à un moment que l'organisation m'a tellement apporté que je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Du coup, je ne peux pas être sportif professionnel. Du coup, je me dis comment donner ce que je sais, l'architecture, le design, à l'organisation. Du coup, par exemple, le dernier camp de basket qui s'est tenu à Cotonou, on a designé des maillots qui ont été faits 100% en Afrique et fabriqués au Ghana, délivrés au Bénin, et les joueurs ont porté ça pour le tournoi. Et du coup, c'est moi qui ai designé ces maillots-là. Et ça permet aussi d'élever mon travail et d'appliquer ce que je pense dans le vrai monde, en fait. Parce qu'en architecture et tout, on dessine beaucoup sur papier, mais les choses n'arrivent pas vraiment tant qu'on n'est pas en agence et qu'on ne fait pas les choses. Du coup, ça me permet déjà de faire des trucs concrets. Voilà.
Alors, c'est votre mère qui vous a inscrit au basket à l'époque? Parce qu'elle voulait que vous soyez plus grand. Est-ce que ça a fonctionné?
Oui, ça a fonctionné moyen. Hein. elle me refait des piqûres de rappel tous les jours. Et tu dois repartir là. Mais je lui dis, maman, j'ai fini de grandir, c'est fini.
Non, mais on dit merci. On dit merci à votre mère. Et vous allez vous en rendre compte aussi avec nos invités. Hein, les femmes, mais pas que. Les parents ont aussi ce rôle central pour amener les enfants vers le sport et leur amener tous les bienfaits que le sport porte et les valeurs portées par le sport. Merci beaucoup, Larry. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour cette intervention.
Merci.
Et revoir, bonne continuation.
Merci de t'être réveillé à 5h du matin.
Bye bye. Au revoir. Merci,
au revoir.
Et à 5h du matin.
Ciao, à Chicago. Alors, il y a moins d'un mois, le joueur de football franco-malien Moussa Marega, et là, bien évidemment, j'ai hâte de vous entendre, vous, messieurs, les anciens sportifs. Il y a moins d'un mois, le joueur de football Moussa Marega, attaquant du FC Porto, a été victime de cris racistes. Ça a été très médiatisé, les fameux cris de singe, hein, émis depuis les tribunes. Et il a pris cette décision, il a quitté la pelouse. Alors déjà, une réaction sur cette sortie de terrain de Jimmy Adjovi Boko, vous qui êtes ancien footballeur.
Il a eu raison, il a eu raison. Honnêtement, il a eu le courage de le faire. Ça fait trop longtemps qu'on... Mais le problème pour moi, c'est le manque de courage de nos institutions. Parce qu'on ne devrait pas avoir, nous, en tant que sportifs, à arriver à ça. Ça devrait être l'arbitre qui arrête le match, tout simplement. Alors que là, non seulement il se met lui en danger publiquement, mais en plus, il peut être sanctionné par l'arbitre et par son club.
En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé.
Oui, voilà.
Puisqu'il a tweeté très rapidement suite à ces événements, je remercie avec beaucoup d'ironie, hein, je remercie aussi les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir sanctionné d'un carton jaune parce que je défendais ma couleur de peau. J'espère ne jamais vous revoir sur un terrain de football. Donc il était très amer, très blessé. On entend les paroles d'un homme blessé. Est-ce que vous aussi, dans vos carrières respectives, vous avez été victime, l'objet de, d'attaques racistes. Ahmed Taoufik, en tant qu'ancien basketteur.
Après, je pense qu'il y a deux écoles.
On vous écoute.
Alors, c'est, moi, ça me rappelle un peu l'école Malcolm X au début, avant qu'il ne change.
Et l'école Martin Luther King.
Je pense qu'il y a deux écoles. Je sais bien qu'il y a des propos racistes, il y a plein de choses qui se passent au niveau du sport. Et quelque part, c'est assez dur à dire parce que je sais que c'est super fort pour un sportif d'encaisser les choses qu'il a dû encaisser et de se décider à quitter le terrain. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre sur soi. Et le meilleur moyen de montrer aux gens qui sont, entre guillemets, pas intelligents, c'est de ne pas répondre et de continuer à faire son sport. Et peut-être après, essayer de discuter ça sur une plateforme, peut-être lors d'une interview ou quelque chose comme ça.
Mais comment jouer sur un terrain de football avec un cœur meurtri? Parce que je pense que c'est de ça dont il s'agissait en l'occurrence.
Mais comment est-ce qu'on prend sur soi? Moi, quand je faisais de la compétition, par exemple, j'ai eu des endroits où on a jointé comme ça. Mais moi, en fait, ça me transcendait à performer encore plus. C'est-à-dire, ok, vous vous foutez de moi, mais moi, je vais vous montrer que je suis encore là.
Je vais
vous montrer
que je vais vous dominer.
Je vais vous montrer que je vais vous dominer. Je vais vous montrer que les Noirs, on est les meilleurs. Je vais vous montrer que malgré ça, je viens, on gagne chez vous et après, je rentre chez moi. Moi, j'aurais plutôt pris ça dans ce sens-là. Comme je disais, donc, c'est vraiment deux écoles. Et après, je comprends exactement. Et je ne sais pas si j'aurais pu supporter ce qu'il a supporté à ce moment-là aussi. Parce que c'est bien de parler, d'être dans le studio et de dire, ouais, voilà, j'aurais pu faire ça et tout. Mais je pense que moi, j'aurais peut-être utilisé l'autre méthode. Mais c'est assez triste, en fait, qu'en 2020-2019, on soit en train de débattre de ça.
Mais c'est bien pour ça que je vous pose cette question à tous les trois. N'est-ce pas un leurre ou un doux rêve de penser que le sport peut combattre le racisme? A-t-il ce pouvoir? Puisque l'actualité regorge d'histoires de ce type, comme ce qui s'est passé avec Moussa Marega.
Justement, c'est pour ça que je dis que le problème vient du manque de courage de nos institutions. Et les fédérations, le problème, si les fédérations n'agissent pas, on continuera, parce que ça fait des décennies que ça se passe, et on continue à laisser faire. Qu'en 2020, on soit encore, ou qu'on en arrive aujourd'hui à devoir quitter le terrain, c'est grave, ça prouve que les choses n'ont pas été faites au niveau de nos fédérations.
Donc c'est entre leurs mains. Cette responsabilité est là.
Pour moi, c'est là. Les fédérations doivent dire s'il y a des cris, qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
Prenons une décision.
Et qu'on ne laisse pas ça entre les mains des joueurs qui, effectivement, il y en a certains qui vont pouvoir que ça va transcender. Taoufik en fait partie. Il y en a d'autres que ça va complètement détruire.
Démolir.
Et c'est, pour moi, ça doit être les fédérations qui doivent gérer ça. Et la FIFA, l'UEFA, la Fédération française, si on parle de football. Donc, nos fédérations doivent prendre le problème en main. C'est un problème de société. Aujourd'hui, qu'il faut savoir gérer.
Quelques messages d'auditeurs arrivés via Facebook. Vous vouliez peut-être réagir, Laetitia Hapchi, sur ce que nous venons de dire.
C'est un sujet important et d'actualité. On a évoqué deux écoles. C'est une question de temporalité, savoir quand il faut utiliser une arme plutôt qu'une autre. Les deux sont essentiels. Mais c'est vrai qu'on vient à une époque où il faut vraiment se poser la question et il faut être davantage courageux. Ça paraît essentiel à notre époque.
Quelques messages d'auditeurs. Gilbert, au Cameroun. Le sport est un véritable vecteur de promotion du vivre ensemble et de l'esprit d'équipe. Il n'y a pas meilleur exemple à suivre que l'équipe de France de football. Peut-être que vous voudrez réagir. Cette équipe rassemble toutes les nations et toutes les races de la planète. On y retrouve les Noirs, des Arabes et des Blancs. Une réaction sur le message de Gilbert?
Très bon message.
Très bon message, nous dit Ahmed Taoufik. Ozana Anjamena, depuis mon enfance, j'aime le sport. Petit, j'aimais chasser les rats en brousse et maintenant, le sport joue un grand rôle dans ma vie car il m'aide à oublier mes problèmes. Courir me fait tellement du bien. On en a parlé de ça, des bienfaits du sport sur le corps, mais finalement l'esprit aussi.
Complètement.
Bourama Bamako, le sport surpasse les limites des frontières géographiques et les classes sociales. Pour moi, tout le monde doit être d'accord pour dire que le sport contribue au développement économique en créant des emplois et en dynamisant l'activité commerciale. Par exemple, le cas de l'Afrique du Sud en 2010, où il y a eu de la création d'emplois et a permis de diminuer la discrimination raciale tout en réunissant le peuple à nouveau. On l'a abordé ici. Et ce message de Patrick à Lubumbashi, qui lui est, voilà, voit les choses un peu moins en rose. Aussi longtemps que le sport sera considéré comme un loisir, il n'agira pas en faveur du développement. Parce que là aussi, le regard porté sur le sport et la façon dont on l'utilise est primordial.
Alors,
Laetitia Hapchi,
ouais. Les temps ont déjà évolué. S'il y a des grandes sociétés internationales, type la NBA, même la professionnalisation derrière la FIFA, des compétitions internationales, c'est qu'on n'est plus que dans le loisir. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Il faut les deux. Enfin, le sport, devient de plus en plus économique. Et gardons aussi un volet sport pour tous, de loisirs. Voilà, tout est une question d'équilibre.
Nous avons avec nous depuis Abidjan Franck, que nous accueillons dans cette discussion. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Bienvenue parmi nous dans 7 milliards de voisins. Vous avez commencé le sport à 12 ans avec le karaté. Vous dites que le sport vous a aidé à savoir ce que vous vouliez faire dans la vie. Oui, c'est intéressant ça. Vous étiez plus challenger, vous étiez plus tenace. Ça vous a aidé à vous motiver aussi à l'école et ça vous a aidé à vous impliquer dans vos études. Vous dites aujourd'hui être très à l'aise dans votre travail grâce au sport.
Exactement.
Donc merci le sport.
Merci le sport. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Donc, je dirais que je soutiendrai le cas de M. Gilbert qui a intervenu depuis le Cameroun, dire que le sport est un vrai trait d'union. Pour moi, c'était une cohérence pour moi, parce que dans les compétitions, on ne trouvait pas tout le monde. On avait comme des Français, des jeunes Américains, Anglais qui étaient au Congo à l'époque, et les Ivoiriens, tout le monde, les Aïrois à l'époque. Mais vraiment, ça se passait bien. Moi, personnellement, avec des amis, c'est comme si j'avais trois mondes. Donc, j'avais mon entourage, mes amis à moi, et il y avait l'école, et il y avait le sport et la maison. Avec, où mes parents m'encourageaient à aller faire du sport, puisque c'est eux qui m'ont inscrit étant jeune. Et donc, du coup, j'étais calibré. Pas que j'étais situé à être ce que je devais être aujourd'hui. Au moins, je savais ce que je faisais. Donc chaque après-midi après les études, je partais aux entraînements et ça m'a permis vraiment à tenir la ligne et à avoir une autre vision du monde et des gens.
Donc le sport a joué encore une fois un rôle très important.
Oui,
vous
très important.
Et vous apportez cette discipline dont on a parlé tout à l'heure avec Larry. Donc vos propos rejoignent complètement les siens. Merci beaucoup Franck.
Merci.
Et je vous laisse chausser vos baskets.
D'accord,
on reste sportif.
Au revoir.
Okay, merci beaucoup. Je me rapproche de vous, Ahmed Taoufik, pour vous présenter à nouveau. Donc, vous avez 35 ans, on peut dire l'âge d'un homme. Hein. Ouais, donc, ça va, tout va bien. Vous êtes social entrepreneur, ancien basketteur de haut niveau. Vous avez grandi entre le Gabon, le Bénin. Vous êtes parti aux États-Unis à 18 ans, c'est ça?
Exactement.
Voilà, et vous avez joué au niveau du championnat universitaire, donc à haut niveau finalement de...
Au niveau de
basket.
Au niveau, mais il faut quand même tenir à préciser quelque chose parce qu'il y a souvent une confusion quand les gens disent qu'ils ont joué aux États-Unis. Mm-hmm. Les gens pensent que c'est un championnat professionnel. Mm-hmm. En fait, c'est haut niveau en termes d'intensité, mais ce n'est pas professionnel dans le sens où professionnel, on te rémunère.
Mais ça peut vous amener aux portes, justement, vous ouvrir les portes de ce niveau professionnel.
Contre, on peut quelque part aussi dire que c'est un peu payé, parce que sans cette opportunité-là, mes parents n'auraient pu jamais payer genre une école à 40 000 euros le semestre.
Oui, oui, complètement.
Donc quelque part, on me payait mes études en fait, pour jouer au basket, et c'était quand même un niveau intense, et c'est comme si on m'avait donné de l'argent pour jouer.
Votre mère, encore une fois, les femmes et cette place centrale dont on a parlé tout à l'heure, vous a offert vos premières chaussures de basket.
Exactement.
Des Jordan.
En fait, je pense que j'ai déjà raconté. Laetitia doit connaître l'histoire déjà.
Comment, moi, je voulais savoir comment vous avez reçu ces chaussures, avec quelle émotion.
En fait, l'idée, c'est que je savais même pas, j'avais pas idée de la valeur des chaussures, en fait. Je vous explique. Au Bénin, pendant longtemps, on a un quartier du marché qu'on appelle Miseba. Donc, Miseba, à l'époque, je crois que maintenant, c'est où on vend la friperie. Et donc, ma mère, moi, j'étais à Libreville, elle est allée là-bas, elle a cherché la chaussure la moins chère possible, qui ne coûtait pas d'argent. Je crois qu'à l'équivalent de, à l'époque, c'était 5000 francs CFA, je crois que c'était à peine, juste un peu plus de, non, à peine 10 euros. Du coup, elle me rachète cette chaussure qu'elle ramène à la maison, et moi, je porte la chaussure, content, je vais à l'école, et mes amis, en fait, ils voient mes chaussures, et tous mes amis de l'école, ils hallucinent sur mes chaussures. C'était des paires de Jordan 6. Et à l'époque, moi, je ne savais même pas c'était quoi. Et donc, ils me disent, en fait, Ahmed, ça, c'est des paires de basketteurs.
Ouais. Parce qu'à l'époque, je jouais au foot, comme la majorité des Africains quand on commence, vu que tu n'as pas besoin de panier de basket, tu prends un papier ou une canette, tu joues. Et mes amis me disent, si tu veux être crédible, en portant ces chaussures et te balader dans la ville, il faut que tu apprennes à jouer au basket, sinon tu ne vas pas être crédible.
Donc tout s'est joué autour de cette paire de baskets.
Exactement.
Elle est géniale, cette histoire.
En cherchant la crédibilité, et aussi, il faut juste aussi que je rajoute un petit truc. À l'époque, à l'école, les filles aimaient plus les gars qui jouent au basket que les gars qui jouent au foot. Donc, ils étaient vraiment cool, les basketteurs. Donc, il y avait cet aspect-là aussi, quand tu es un jeune qui est en train de...
Mais ça compte.
Ah, c'est très important.
Ça compte.
C'est très important. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à apprendre à jouer au basket, à aimer ce sport. Et le facteur qui est déterminant sur mon histoire, c'est que quelques temps après ce don de ma mère décède.
Deux ans après.
Et du coup, pour moi, vu que j'étais aussi passionné déjà de ce sport, je me suis dit... J'avais l'impression que c'était comme une sorte de flambeau, une sorte de passation, une sorte de...
Un héritage, quelque chose.
Voilà, un héritage. Comme si elle me disait, écoute, je ne serais plus là, mais ce que je te donne là, si tu te concentres dessus, ça peut t'aider à atteindre tes objectifs, ça peut t'aider à devenir l'homme que tu veux être dans le futur. Et quand tu es dans ton jeune âge et que tu as toutes ces émotions, toutes ces choses-là qui arrivent tout d'un coup, que tu ne sais pas gérer, et en plus en Afrique, ce n'est pas comme ici que tu peux aller voir un psychologue ou discuter avec des gens, mais en fait, non, tu te gères. Ouais. Comme on dit, tu es un homme, tu dois être dur.
C'est toi et toi.
Bon, je ne suis plus trop d'accord avec ça, va, c'est toi et toi. Et donc, le sport et le basket devient ce lieu-là où j'étais un autre être humain. Du coup, quand je sors de chez moi, je suis sur mon terrain de basket, je restais des heures. Je me prenais pour...
Jordan.
Michael Jordan, Kobe Bryant, etc.,
oui.
etc. Et donc, vu que j'avais cette passion et que ce lieu, c'était mon sanctuaire, je passais énormément d'heures. Et plus tu passes d'heures sur ta passion, plus tu te développes, plus tu évolues. Et c'est comme ça que j'ai rapidement évolué, gravi les échelons et j'ai pu avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis.
Vous avez fondé il y a 10 ans l'association Les Enfants du Bénin Debout. Quel est l'objet de cette association?
Alors, Enfants du Bénin Debout, c'est une association donc, qu'on a fondée il y a une dizaine d'années. L'objectif, c'est d'utiliser le sport comme vecteur de développement. Ça va, les amis?
Ça va, tout
okay,
va bien.
D'accord. Alors, c'est d'utiliser le sport comme vecteur de développement. Et la majorité des choses qu'on fait s'inspire un peu de ce que j'ai vécu, ayant quitté l'Afrique à un jeune âge, allant aux États-Unis. J'ai pu apprendre que pour qu'un homme soit complet, il y a 3 axes. Il y a le sport. Il y a l'éducation, donc le fait que tu es à l'école ou que tu apprennes des gens, c'est ça l'éducation aussi. Et il y a la culture, le fait que tu saches d'où tu viens, que tu apprennes à apprécier une belle œuvre, etc. Et donc l'idée d'Enfants du Bénin Debout, en fait, c'est d'utiliser ces 3 leviers-là pour aider les jeunes à s'émanciper. Donc le sport, pour qu'ils puissent être en bonne santé et aussi pour les attirer. Parce que si tu vas en Afrique tout de suite, tu dis aux enfants, tiens, on fait une conférence, débat sur l'égalité homme-femme, mais tu n'as personne qui vient à ta conférence. Mais si tu fais un événement sportif et tu dis, bon, en fait, si tu veux faire partie de l'événement sportif, tu dois passer par la case conférence-débat, les jeunes y viennent. Ou si tu leur dis, on va visiter un musée, mais... Non. On fait d'abord l'activité sportive, les jeunes y viennent. Donc, c'est ça un
oui,
peu l'idée.
Puisque vous engagez beaucoup d'actions en termes de tourisme, par
Exactement.
Exemple, donc sur le plan culturel, mais aussi à cette activité de social entrepreneur, où lorsque vous organisez des événements, par exemple, vous permettez à des vendeurs, à des marchands, effectivement, d'y participer, d'écouler leurs marchandises contre, vous avez un fonctionnement, un petit pourcentage qui est réinjecté à nouveau dans l'organisation de toutes ces activités dont bénéficient notamment les jeunes. Donc, on est dans un cercle plutôt vertueux.
Complètement.
J'ai envie de dire, donc il y a une vraie démarche de cohésion sociale aussi et de développement pour les uns et pour les autres. À propos du sport, vous dites, les gens commencent à comprendre à quoi sert le sport. Au début, les familles étaient réticentes. Elles pensaient que le sport, finalement, éloignait les jeunes de leurs études. Comment avez-vous réussi à les convaincre?
Bon, en fait, c'est tout simple. En fait. Les familles observent ce qu'on fait, ça fait une dizaine d'années, et ils voient les résultats, ils voient certains enfants qui évoluent dans leurs études, ils voient certains enfants qui ont des opportunités d'aller faire leurs études à l'étranger, et ils se rendent compte qu'en fait, ce sport-là permet plein de choses. Et ils voient mon exemple aussi.
Ouais.
Ils voient que j'étais là, que j'ai fait ce sport-là, je ne suis pas devenu un moins que rien. Au contraire, j'ai plutôt pas mal réussi dans ce que j'ai voulu entreprendre, et maintenant, j'ai même l'opportunité de venir passer du temps et redonner. Et il y a aussi une relation de confiance qu'il faut aussi... mettre entre les parents et vous, c'est déjà... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les parents, on leur explique un peu notre idéologie, les choses qu'on met en place, des parents qui viennent voir ce qu'on fait. Là, par exemple, je rentre ce matin de Porte-Novo. Il y a une maman, on a fait un tournoi pour filles, pour célébrer la Journée internationale de la femme. Il y a une maman qui a suivi sa fille toute la semaine.
J'ai jamais vu ça, en fait, dans l'histoire depuis qu'on organise des événements au Bénin. Elle venait aux conférences, elle venait aux entraînements, elle venait aux matchs. Ouais. C'est juste extraordinaire. Il y a quelques années, les parents, ils voulaient même pas que l'enfant aille au sport. Là, maintenant, ils sont à venir encourager leurs enfants à pratiquer le sport. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et je voulais rebondir sur le point rapidement que vous avez fait sur le fait qu'on ait créé un écosystème autour de notre événement. Donc, c'est très important parce que l'événement qu'on a produit l'année dernière s'appelle le United Basketball Africa Games. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni le Gabon, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Nigeria et le Ghana.
Ouais, le Ghana.
Et donc, du coup, on a fait ce tournoi qui était sur 3 jours, une compétition internationale parce que les jeunes manquent de compétition internationale. Et on a réuni 5000 personnes sur 3 jours.
Avec des garçons dans la compétition, des
exactement.
Filles, mais aussi le handisport.
Exactement.
Représenté.
C'est le premier tournoi africain inclusif où il y a filles, garçons et handisport. Et donc l'idée, je me rappelle même quand j'avais proposé l'idée à mes collègues de l'association de faire en sorte que la compétition, l'entrée est gratuite. Mm-hmm. Par contre, tout ce qui est vente de produits, c'est-à-dire nourriture, boisson, est contrôlé. Mes collègues de l'association font « Mohamed, on ne peut pas faire ça !» Je fais « Non, 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 à un moment, on produit un événement, on sait qu'on va avoir du public. » Du coup, les gens qui viennent à cet événement vendre, ils vont générer des revenus.
Oui, on essaie de maîtriser cet écosystème. Ahmed Taoufik, je voudrais laisser nos auditeurs intervenir dans cette discussion et accueillir Bassirou. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors vous aussi, vous êtes à Bamako, Bassirou, et vous aussi, vous lancez dans des projets, notamment autour du foot citoyen.
Exactement.
Pouvez-vous nous en dire plus?
Merci, merci.
Avec plaisir.
En fait, nous avons pris l'initiative d'un projet que nous avons appelé Foot Citoyen, dont le principe aussi est de profiter de la capacité de mobilisation du foot pour amener les jeunes à s'investir dans les activités de citoyenneté. L'an passé, nous avons lancé la première édition. Donc, pour participer au tournoi, chaque équipe devait s'engager à assainir l'environnement, un quartier, un espace public. Donc, imaginez des milliers de jeunes que nous avons réussi à mettre dans les quartiers pour assurer les activités d'assainissement, parce que tout simplement, ils aimaient jouer au football. Donc, cette dynamique a été très porteuse, bien appréciée par l'ambassade du Danemark qui nous a accompagnés. Et cette année, il y aura les élections au Mali ici, les élections législatives. L'ambassade du Danemark nous a appelés pour nous demander de lui proposer un projet mobilisateur de la jeunesse autour de ces élections législatives. Nous avons conçu un autre projet, Foot Citoyen, cette fois-ci, que nous avons appelé Foot Citoyen Express, dont le principe aussi est d'utiliser ces mêmes jeunes pour les mobiliser, à aller retirer les cartes d'électeur et à participer pleinement aux élections. Donc, ce qu'on fait, on organise un tournoi, mais il y a des conditions de participation au tournoi. Un joueur et une équipe pour qu'il participe, il faudra que l'équipe s'engage à ce que chacun de ses joueurs mobilise au moins 30 personnes autour de lui pour aller retirer les cartes électeurs, pour aller participer aux élections le jour J. Donc nous allons avoir 16 équipes en commune 5 de Bamako et 16 équipes en commune 4 de Bamako. Et chacune des équipes va donner 23 joueurs. Et imaginez tout cela, chaque individu qui mobilise 30 personnes autour de lui. On va se retrouver avec un peu plus de 20 000 personnes qu'on aurait mobilisées autour de cette activité de foot citoyen express. Voici comment nous avons conçu pour à travers le sport, particulièrement le football, pour mobiliser chaque fois.
Bassirou, je voudrais que Jimmy Adjovi beaucoup réagisse, puisque nous avons un ancien footballeur avec nous. Je m'excuse auprès des autres auditeurs que nous ne pourrons pas prendre en direct à l'antenne, puisque cette discussion, finalement, est très vaste et nous amène dans beaucoup de directions. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je voudrais vraiment donner la parole à Jimmy Adjovi beaucoup. Merci beaucoup, Bassirou. Nous poursuivons cette discussion avec vous. Une réaction sur ces initiatives dont vient de nous parler Bassirou et dont l'AFD participe d'ailleurs à ces actions.
Je trouve, Bassirou, félicitations. Je trouve
bravo,
l'idée fabuleuse. C'est tout le rôle que peut jouer le sport, le football en particulier, parce que c'est le sport le plus populaire. Mais que ce soit dans la santé, que ce soit là, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'égalité homme-femme, et là, sur le rôle citoyen que peut jouer le sport, c'est juste fabuleux. Et je pense que nos dirigeants ont compris tout ce qu'il y avait derrière.
Les enjeux voilà. Derrière le sport.
Je vois, au moment du discours de Ouaga du président Macron, le sport a été un des éléments importants dans la nouvelle relation avec le continent africain. Je vais prendre l'exemple du Bénin, parce que le Bénin est en force.
Il est très représenté aujourd'hui.
Le président Talon a mis en place une vraie politique autour du sport, avec des objectifs ambitieux. Donc là, nos chefs d'État, nos dirigeants commencent à comprendre vraiment ce que le sport peut apporter à notre société. Et ça, je pense que c'est vraiment la différence avec il y a quelques années.
Vous avez fondé l'association ou l'institut que vous préférez, l'Institut Diamba, en 2003 au Sénégal.
C'est ça.
Et présentez-nous cet institut.
Bah écoutez, on a créé en fait l'association avec Saher Seck, Bernard Lama, Patrick Vieira et moi-même. On était
les quatre, qu'on connaît bien.
Voilà, les quatre membres fondateurs. L'idée, c'était de faire du foot passion un moteur d'éducation. À une période où, en l'an 2000, quand on a créé l'association, en fait, on a posé la première pierre en 2003, mais l'association pour mettre en place le projet a été créée en l'an 2000. C'était un moment où on avait des relations entre le continent et l'Europe, avec des gens qui faisaient venir des jeunes dans des conditions pas toujours excellentes.
Idéales.
Voilà. Ouais. Pour nous, notre idée, c'était qu'on puisse avoir sur le continent africain des structures, des infrastructures et des dirigeants qui soient capables de mettre en place des projets pour former nos jeunes sur place et qui n'est pas à partir pour pouvoir être formé
et s'épanouir à travers leur sport.
Donc on a créé une structure qui aujourd'hui a 125 salariés, qui a un modèle économique qui est juste exceptionnel.
Donc génératrice d'emplois.
Génératrice d'emplois et d'une véritable économie. C'est-à-dire que nos 125 salariés plus nos 100 jeunes qui sont l'équipe professionnelle qu'on a là, on a un budget d'un million d'euros aujourd'hui et qui fait vivre tout un environnement. Donc ça, c'est vraiment je dirais que la différence avec ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a derrière ce projet un projet économique, un modèle économique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire vivre cette structure.
Donc pour vous, l'instruction, l'éducation sont vraiment nécessaires pour qu'un footballeur soit finalement un bon footballeur. Vous cherchez vraiment à rompre avec ce mythe du footballeur musclé et finalement pas très futé. Vous le déconstruisez, ce mythe.
Et exactement.
C'est ce que vous mettez en avant.
Un sportif, pas seulement un footballeur, un sportif.
Oui, largement.
C'est une intelligence. Et pour nous, en fait, notre projet, c'est de former l'homme autant que le sportif.
Le corps et l'esprit.
Voilà. Et c'est vrai que dans le foot et dans tous les sports professionnels aujourd'hui, il est compliqué ou plutôt plus on amène d'outils à nos jeunes pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors, avec les réseaux sociaux, avec les relations avec les agents, les relations avec les supporters, les relations avec les dirigeants, plus on amène d'éléments de compréhension de ce qui se passe sur le terrain, donc la technique, la tactique, le physique,
la stratégie,
voilà, tout ce qui va lui permettre de réussir.
Merci beaucoup.
Mais aussi l'environnement.
On l'a bien compris à travers vos témoignages et votre expertise aux uns et aux autres que finalement le sport est l'un des acteurs phares du développement de l'Afrique. On peut conclure sur ces mots. À suivre.
Moi, ça me va bien.
Ça vous
bien
va bien
sûr,
ouais. À tous. Donc, merci à nos invités si ça vous va. Merci à vous, Laetitia Apchi de l'AFD. Merci à vous, Jimmy Adjovi Boko, pour l'association, pour l'Institut, voilà, d'Amsar. Et Ahmed Taofik pour l'association Les Enfants du Bénin Debout. Merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual et Littérature sans